Comme on est en Suisse, on va commencer. Parce que c'est 6h30.
Ah bah d'accord.
Hein, vous savez, ici, c'est comme ça.
30 secondes encore.
Encore 30 secondes, c'est pas moi.
On n'a pas la même,
Donc vous êtes tous là? Vous avez des copains en bas encore? Vous attendez des gens qui vont arriver? Mais même s'ils loupent le début, ils comprendront. Non, vous êtes d'accord, on y va. Parce que plus on commence tôt, mieux c'est, parce que plus on peut discuter longtemps. Mais c'est ça, en plus c'est l'heure. Sinon, il n'y a pas de discussion.
S'il n'y a personne qui commence, peut être.
Ouais, on dit. Je vais commencer simplement en vous présentant déjà les gens. Comme ça, vous savez un peu à qui vous avez affaire. On n'a pas préparé de petits noms comme ça devant, mais vous allez vous souvenir. D'accord ? La discussion est ouverte entre les gens sur la scène, vous, si vous avez des questions, si vous avez envie de participer. C'est une discussion ce soir. C'est un vrai échange, on va dire, sur Harold Pinter. Alors, on va commencer peut-être par vous, Brigitte Gauthier. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Harold Pinter, qui ont été remarquables et remarqués. Harold Pinter, le maître de la fragmentation. Harold Pinter, il est dramaturge de la fragmentation. Et puis, mettre en scène Harold Pinter. Vous enseignez également à l'Université d'Évry, où vous dirigez le programme Script. Avec nous également Marie-Christine Épinet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes la metteur en scène de ce soir.
La maîtrice.
Non.
Non,
c'est moche.
Ah non, oui, c'est moche, c'est affreux. Même.
C'est affreux. Non, alors en tant que femme, je dis la metteur en scène.
Maîtrise.
La metteur en scène de ce soir. S'il y a des féministes qui veulent me dire qu'on dit metteuse ou maîtrise, vous pouvez dire c'est moche. Du spectacle du gardien qui va jouer tout à l'heure. Avec nous également Marco Sabatini. Bonsoir aussi. Vous êtes dramaturge, vous êtes chargé aussi d'enseignement à l'Université de Genève, à la Faculté des Lettres et à la Faculté de Traduction de l'Université de Genève, dramaturge de la pièce de ce soir également. Et puis évidemment Philippe Jean, écrivain et traducteur d'Harold Pinter. Et vous venez de publier, si jamais les gens n'ont pas vu la petite table là, votre dernier ouvrage.
Ouais, j'ai pas vu, c'est très gênant pour moi ça.
Pourquoi?
Parce que je ne suis pas là pour vendre des livres.
Mais on dit que vous ne savez pas.
On est là pour écouter une pièce de Pinter et à la rigueur la traduction. Là.
Donc n'achetez pas le livre de Philippe Jean qui est juste là, au cas où s'il n'est pas là.
Volez-les.
Volez-les discrètement. Et évidemment Lionel Kiouk qui est également parmi nous du théâtre du Grutli. On va commencer. En fait, je vais m'asseoir avec eux parce que je ne vais pas être restée tout le long debout. Et puis je vais vous poser une question à vous Brigitte. Comment vous êtes tombée dans Harold Pinter? Parce que vous êtes vraiment tombée dedans.
En fait, j'ai été éduquée par un père qui était un passionné de théâtre, qui allait chaque année à Avignon, qui a voulu très tôt que je suive des cours de théâtre. Donc je me suis retrouvée à faire de la danse du lapin parce que il y a un moment où on ne peut pas rentrer au conservatoire avant un certain âge. Je crois qu'il fallait avoir 7 ans pour être accepté en danse. Donc j'ai commencé par faire le lapin, la tortue, bien avant. Et puis pour le théâtre, c'était pareil. À 8 ans, je me suis retrouvée à suivre les cours d'une ancienne actrice de l'Odéon, Irène Pagès, où là, c'était terrible. C'était à la fois extraordinaire et horrible. Comme j'étais la petite, je n'avais le droit qu'au poème. Et j'entendais les grands qui échangeaient des textes d'amour. Il y avait Bérénice, il y avait tous les grands du théâtre. C'était comme des mots qui volaient au-dessus de moi. Bon, donc ça, c'était mon enfance. Et Pinter, ça a été une rencontre aussi assez jeune, je ne sais plus à quel âge, mais j'avais vu à la Galerie 55 la première pièce de Pinter. Ma première pièce était en anglais, c'était The Lover. L'affiche était belle. Vous savez, un escarpin rouge très pointu. Et après, j'ai tout suivi. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de représentations, même de la même pièce, pendant des années, en français, en anglais. Et je crois que je suis devenue aujourd'hui comme une ambassadrice de Pinter en France, parce que Pinter est l'équivalent de Shakespeare en Angleterre. Il est aussi connu que Shakespeare pour la période contemporaine. Et en France, il y a un gap. Enfin, il n'est pas aussi connu que Molière, alors qu'il pourrait être aussi connu que Molière. Et je me suis donné un peu cette mission. Voilà.
Et pourquoi lui et pas un autre, si c'est ce type de théâtre qui vous plaît? Qu'est-ce que, chez lui, qu'est-ce qui vous a touché plus que chez d'autres?
Alors, il est unique, parce que des pièces, j'en ai vu des milliers de metteurs en scène très différents et de textes très différents. Il est unique parce que sa voix parle et reste en vous. Je pense que toute personne qui a vu une pièce de Pinter ne veut pas oublier un affect. Il y a quelque chose qu'il vous fait. Je pense que c'est ça. Alors, on peut se demander pourquoi, à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à la thématique? Est-ce que c'est dû à l'écriture? Est-ce que c'est dû à la structure? En fait, je pense que c'est dû à la voix. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, quels que soient les personnages qu'il met en scène, on entend lui. Pas au mauvais sens du terme, c'est-à-dire quand vous lisez un roman ou un scénario écrit par quelqu'un qui maîtrise mal ce métier, on entend la même personne dans tous les différents personnages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à donner une voix différente aux différents personnages. Lui, il le fait parfaitement bien. Si vous allez avoir des exemples, et puis c'est bien si vous rebondissez même pendant que je parle, hein. À chaque fois, vous avez...
Vous écoutez la pensée.
Ah bon, vous avez des pièces qui sont à 2, 3, 4 personnages. C'est comme des Legos, c'est un jeu mathématique, c'est un jeu d'enfant avec des mécanismes où on étudie des permutations. Et chacun de ces personnages est parfaitement autonome. Et pourtant, vous prenez n'importe quelle section de Pinter et on sait que c'est du Pinter. On sait. Il a comme une marque de fabrique. Il a réussi à fabriquer quelque chose qui est organique, où, quelle que soit la pièce, et là, avant de venir ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, j'ai passé une partie de ma vie à travailler sur Pinter. Je ne vais pas relire tout ce que j'ai écrit. Je n'ai pas le temps, en fait, pendant les 3 heures du train, de relire tout ce que j'ai écrit. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, bon, seule chose à faire, c'est, je vais lire la pièce de ce soir. Et ça suffit. Parce qu'en fait, dans n'importe quelle pièce, vous avez toutes les autres. Et c'est absolument passionnant, et c'est un jeu que vous pouvez porter en vous la prochaine fois que vous verrez une autre pièce de Pinter. C'est que vous entendez des échos, des références. Vous savez, on a tous parlé de Balzac et la comédie humaine. Donc vous savez que les jeux s'imbriquent. Chez Pinter, chaque pièce est autonome, et pourtant, ça fonctionne comme un tout organique. Donc pourquoi il a une voix tellement forte? C'est parce qu'il est, il est sans scrupules, sans pitié, il est ruthless, il est complètement décapant. C'est quelqu'un qui n'a aucune complaisance face à lui-même et face aux autres. Je pense que pour tous les journalistes et les critiques, c'est un homme très difficile à rencontrer et avec qui c'était de l'ordre de l'exploit d'avoir une conversation ou un entretien. Moi, je me suis spécialisée dans tous ces gens-là à qui on ne peut pas parler. Pinter, Bob Wilson, Pinabash. On ne peut pas faire mieux. Ce sont des gens qui ne communiquent pas avec l'ennemi. L'ennemi étant cette engeance stupide et ringarde, l'universitaire. Et...
Vous partagez son point de vue?
Oui, tout à fait. Mais attendez, c'est...
Mais on l'a senti.
Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que il écrit pas pour qu'on écrive sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il écrit pas pour que on le traite à l'agrégation. Il écrit parce que il a quelque chose à dire pour changer sa génération et, si possible, la génération d'après. Et je pense que c'est ça qui fait sa force, parce que beaucoup d'auteurs dramatiques vont écrire des anecdotes, ils vont traiter quelque chose qui est de l'ordre du fait divers, ils vont le faire avec brio, avec talent. Il y a énormément de gens talentueux, mais il y a un Shakespeare, un Molière, un Stanislavski, un Pinter. Il y a,
c'est non, mais je rigole parce que je suis tellement en accord avec ce que vous dites que non, c'est le talent. On sait bien que ça n'a jamais fait les grands écrivains et les grands auteurs. Et on connaît les gens qui ont du talent, il y en a beaucoup. Et je trouve que là, cette espèce de volonté de Pinter de travailler avec les, d'apporter quelque chose à son époque, c'est beaucoup ont voulu le faire. Et seulement, il y en a à chaque fois, il y en a un ou deux qui arrivent. Et pourquoi ? Parce que en plus de l'intention, il y a en même temps, je ne sais même pas si on peut même pas, c'est même pas du talent, c'est des gens qui sont habités par ce qu'ils font et qui. Moi, j'ai pris la parole, je voudrais la rendre parce que
non,
c'est
mais
un
au
peu.
Contraire.
Moi, j'ai abordé Pinter parce que quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est Luc Bondy, qui est metteur en scène que vous connaissez, qui m'a demandé de traduire Pinter. Donc j'avais une connaissance de Pinter qui était très superficielle, comme on peut lire Pinter quand on lit très très vite ou qu'on va voir quelques pièces. Après, quand vous traduisez, ça devient un espèce de truc où on plonge dedans. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette idée de Brigitte qui s'était plongée dedans. Et Pinter, ça a cet effet-là. C'est-à-dire que quand vous rentrez dedans, vous plongez dedans. Et j'ai redécouvert Pinter en le traduisant parce que là, vous vous apercevez que chaque mot compte, presque chaque phrase compte et que c'est un vrai bonheur et que là, bon, en dehors de l'intention et en dehors de cette volonté de renier, mais de dépasser le théâtre qui était celui du théâtre qui était pratiqué avant lui, il y a autre chose, il y a une espèce de. On va en parler certainement, mais il y a une. Moi, je suis pas tellement en même temps. Je suis moins étonné par les histoires, par les thèmes. Il n'y a pas vraiment d'histoire en même temps. Il y a toujours cette double possibilité chez les acteurs, ce qui les rend d'autant plus profonds et intéressants. Par exemple, là, dans la dernière, dans le retour, tous les personnages sont doubles en même temps. On ne sait jamais de qui ils sont vraiment. Et ça provient aussi de la dualité dans la langue. C'est jamais vraiment, les mots ont toujours un double sens. Et c'est ce qui fait une extraordinaire richesse. En fait.
Alors, comment on traduit ça ?
Comment on traduit ça ? On se met devant et on accepte de passer des heures sur un bout de phrase parce qu'on pense que c'est très important et que moi, en tant qu'écrivain, je n'ai pas les mêmes impératifs qu'un traducteur qui, pour gagner sa vie, est obligé de traduire, je sais pas, une trentaine de pages par jour. Moi, si j'ai envie de rester une journée sur une page, ce n'est pas un problème pour moi. Mais en même temps, c'est un tel enrichissement et un tel. Là, par exemple, je traduis aussi un auteur anglais qui est vraiment reconnu comme étant l'auteur aujourd'hui de sa génération, c'est Martin Crimp. Mais si vous lisez Martin Crimp, vous voyez à quel point il est redevable de tout ce qu'a fait Pinter avant lui. Et c'est génial, parce que c'est des gens qui ont beaucoup. J'aime pas employer ce mot talent, parce que c'est pas du talent, mais c'est des gens qui ont de telles capacités qu'il peut en même temps. Intégrer complètement le travail de Pinter et puis le proposer aujourd'hui avec pas des orientations, mais une espèce d'atmosphère et de vision différente. Mais Pinter, c'est comme une espèce de totem. Je dis totem, c'est même pas un totem, c'est un monolithe.
Ben moi, je vais rebondir sur cette histoire de dualité. C'est très juste parce que. Et c'est une des pistes pour comprendre pourquoi ça marche. Parce qu'au lieu de fonctionner. En décrivant des personnages monodimensionnels ou multidimensionnels, ils sont recto-verso.
Oui, ils sont doubles.
Et ça, si vous étudiez des civilisations complètement différentes des nôtres, comme les Indiens d'Amérique, vous voyez qu'il y a des jeux, par exemple, des jeux de divination, où on met sur la table 5 cartes, le centre, le nord, et puis les points cardinaux, avec des animaux. Et le positionnement de ces cartes correspond, d'après ces jeux, ça s'appelle Medicine Cards, à où vous en êtes à un moment précis. C'est-à-dire, l'animal du centre, c'est votre état. Le nord, c'est où vous allez. Or, la différence avec un horoscope, c'est que quand vous lisez le petit livre qui va avec, c'est que chaque animal a deux versions de ce qu'il peut être au même moment. C'est-à-dire, vous pouvez lire complètement vers le positif ou complètement vers le négatif. C'est-à-dire, les deux points, minus, plus, existent dans d'autres cultures et sont tenus ensemble. Et là, c'est très juste ce que M. Jean a senti là pour la traduction. On est toujours avec le mot et son inverse parce qu'on est en fait dans la globalité de l'univers. Ça, c'est un des éléments.
Je pense aussi que c'est un des. qui intéressait Pinter chez ses contemporains aussi, de se rendre compte qu'on est tous tellement, quand on fait le bien, on a le mal en nous, et tous ces personnages sont comme ça. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de... Tout à l'heure, quand je vous ai demandé, c'était vous qui aviez trouvé ce truc de la fragmentation. Ça aide à la fragmentation, justement, de montrer qu'on est à chaque fois... On est à chaque fois qu'une partie de l'autre partie d'un tout. Et ça, ces personnages, ils sont tout le temps en train de basculer d'un endroit à un autre. Et c'est là où je trouve que aussi Pinter, c'est vraiment très très fort, parce qu'il ose des choses qui sont presque de l'ordre de l'entertainment. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de rendre des choses très très floues ou vagues ou menaçantes, ou, même quand ça n'a pas vraiment de raison d'être. Et cette espèce de menace qui est vraiment, on pourrait dire, c'est facile d'être toujours dans une atmosphère de menace, beaucoup plus subtile que ça. La menace, elle est dans l'existence même de ces acteurs. C'est menaçant parce qu'ils sont, ils sont pas, c'est pas des monolithes, lui, c'est un, je disais un monolithe tout à l'heure, donc personne, on n'est pas des monolithes, on est plutôt des... Et tous ces personnages, il a su leur donner... C'est pour ça que je trouve même que, je sais pas, les derniers trucs que j'ai en tête, je suis comme vous, c'est-à-dire que je suis obligé de penser à la dernière chose que j'ai faite. Et dans le retour, ces personnages sont attachants parce qu'ils sont jamais ni noirs ni blancs. C'est-à-dire que même dans le plus sombre du sombre, le type de... C'est Max dans le retour, qui paraît être un type monstrueux, il y a une espèce d'élan, comme ça, il ne sait même plus si, en parlant de sa femme, qui était une femme un peu particulière, il reconnaît à la fois que c'est celle qui a éduqué ses enfants, qui leur a tout appris, et en même temps, il dit, mais j'en ai marre de voir sa sale gueule et tout ça, donc... C'est d'une violence incroyable, et c'est là où ça devient juste. Parce qu'on est, si on réfléchit bien, souvent on est vraiment extrême dans nos pensées, même si on ne les extériorise pas tout le temps.
Il y a au fond de l'amour-haine.
Ah oui, non, c'est...
Et ce qui est, pour revenir à votre première question, pourquoi Pinter plutôt que quelqu'un d'autre? C'est parce que, je pense qu'on est assez direct par rapport à nous-mêmes ici, la seule chose qui m'intéresse, c'est les relations homme-femme. Et la façon dont il les dépeint est beaucoup plus juste que beaucoup.
Non, mais dans la pièce de soir, il n'y a pas de femme.
Mais c'est pareil. Je veux dire, la relation homme-femme ou la relation homme-homme ou la relation ami-ami, c'est la relation humaine. Hein. C'est la relation entre les êtres, en fait, qu'il a su écouter, qu'il a su entendre dans tous ces petits décalages, dans tous les moments où ça bascule. Ça qui est fort. Parce que si vous regardez, et c'est ça qui est dangereux, vous disiez, quand on touche à Pinter, c'est fini, quoi. On est marqué. Il y a une expression qui s'appelle la tunique de Nessus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui portaient une tunique dans l'Antiquité, et la tunique les empoisonnait progressivement. Alors, je ne vais pas comparer sa vision à du poison, mais d'une certaine façon, il vous marque. Alors, il vous marque comment? Parce qu'il vous apprend, enfin du moins moi, il m'a appris à écouter dans un dialogue avec un amant, ce que cet amant dit n'est pas forcément ce qu'il pense. Et à chaque seconde, il y a une phrase, je crois qu'elle est aussi dans cette pièce, dans la pièce de ce soir. Je ne peux pas prendre tes mots, comme vous l'avez traduit. I can't take your words at face value. Mm-hmm. Hein, je ne peux pas prendre pour argent comptant chacun de tes mots. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, ce n'est pas blanc ou noir. C'est blanc, blanc crème, blanc pâle, blanc beige, blanc calcaire, blanc noir.
Et c'est aussi cette histoire de l'infratexte, comme dans les infrasons. Il y a des choses que vous lisez. Les personnages disent des choses, et ce que Pinter a à faire passer d'une manière magistrale, c'est ce qu'ils ne disent pas et qu'ils essayent de sans vouloir le dire, ce qu'ils cachent et en fait ce qu'ils mettent en avant. C'est ça l'infratexte. Et c'est là où il y a, dans le théâtre, mais dans d'autres... dans la littérature, dans les romans, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, c'est l'infratexte, c'est ce qu'il y a dessous. Et les grands auteurs, c'est ça qu'il vous faut passer. Ils ne restent jamais en surface. Et c'est comme la musique, hein. Vous entendez les infrasons, on ne les entend pas. Et c'est ceux qui vous touchent, physiquement, vous ressentez quelque chose. Et chez Pinter, je trouve que l'infratexte, si on peut appeler ça comme ça, je trouve qu'il est énorme. Il est incroyable. C'est comme ce que racontait Hemingway quand il disait « Si vous êtes bon, vous racontez pour décrire un iceberg, vous juste vous parlez de la petite truc qui sort, mais si vous êtes bon, vous allez donner le sentiment que la masse qui est cachée est beaucoup plus importante. Chez Pinter, c'est incroyable ce truc-là. Et ça, mais moi, je l'ai découvert en même temps en tant que traducteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi une lecture de Pinter, comme j'espère que c'est pas ce qui va vous arriver ce soir, mais vous allez voir une pièce et en même temps, c'est distrayant, il se passe des choses, c'est marrant, mais Le fait, moi, par exemple, d'avoir été obligé de m'arrêter sur des phrases ou quoi, je suis rentré dans quelque chose qui est, à mon avis, c'est pas évident tout de suite. Ou alors vous allez, comme certains auteurs, moi ça me faisait ça chez Nabokov, par exemple, de lire Nabokov, et d'être tellement embarqué par la beauté, du rythme, du sens, de ne pas comprendre le sens, et d'être obligé de revenir en arrière pour dire, qu'est-ce qu'il m'a raconté là. Et souvent, chez Pinter, ça me faisait ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois une telle tension, une telle violence, ou un tel retournement, où il y a tellement de choses qui vous prennent en même temps, qu'on ne sait plus très bien, quoi. Et moi, je sais que c'est la traduction, c'est le ralentissement qui m'a permis d'aller peut-être éventuellement vers des choses qui me semblaient encore plus incroyables.
Est-ce que c'est pour ces raisons-là? Parce que Marie-Christine, c'est la première pièce que vous montez.
Oui.
Et hop, Pinter. C'est à cause de tout ça aussi?
J'entends, en tout cas en écho, beaucoup de choses qui m'ont plu dans la lecture et le parcours que j'ai dans le visionnement et les désirs que j'ai eus à travers la lecture des pièces. C'est vrai que moi, je souhaitais monter un texte très fort au niveau de l'écriture, au niveau du sens et de la portée ici, aujourd'hui, maintenant. Et je trouve que Pinter a un discours politique dans tout ce qu'il aborde. Hein. Il y a des thématiques récurrentes dans toutes ces pièces. Et peut-être que Le Gardien m'a tellement touchée et en même temps fait rire. C'est quand même les deux pôles qui me plaisent beaucoup. J'ai jamais autant ri que pendant ces répétitions. Pour moi, c'était important. Si un texte me fait lire, eh bien, j'ai envie de le monter.
Pinter est drôle en même temps. C'est drôle, Pinter. C'est drôle.
Et oui. Donc, c'était un élément important. Le fait qu'il ait écrit cette pièce à 29 ans était aussi important. Le fait qu'il ait eu un pareil échec avec l'anniversaire juste avant, le fait qu'il ait dû quasiment faire le deuil de l'écriture avant d'être réhabilité par la BBC, heureusement qu'il y a eu cette intelligence de donner la parole à de jeunes auteurs pour savoir comment il s'en était sorti avec la guerre et l'après-guerre, la reconstruction de Londres. Moi, ça me parlait beaucoup. Je travaille beaucoup avec des adolescents de 15 à 20 ans. Et c'était un petit peu le prolongement de tout ça. Ça m'intéressait de savoir que Pinter avait écrit de la poésie à 11 ans, en étant dans les Cornouailles pendant 3 ans, expédié par ses parents pendant la guerre pour être sauvé des bombes sur Londres. Et je trouvais que voilà, tout ce parcours-là me parlait beaucoup et une œuvre de jeunesse m'interpellait. C'était l'œuvre du succès, mais en même temps, je sentais la partie chaotique entre l'anniversaire qu'il a remonté 30 ans après, hein, avec dans le même lieu avec tellement de succès, et ça avait été le coup près. Il a été assassiné sur l'anniversaire, il a été encensé avec Le Gardien. Donc moi, cette limite-là, ce fil du rasoir, me plaît beaucoup.
Excusez-moi, Tania Chitil a parlé de l'absence de femmes sur scène, mais vous, un de vos angles, c'était justement la présence des femmes, enfin quelque chose qui imprégnait ce qui avait acté les hommes. Donc, comment vous l'abordez, ça?
Peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé sur la thématique des femmes auparavant, hein, un petit peu comme banderole pendant des années. J'avais envie de monter une pièce qu'avec des hommes, en sentant que sous-jacent, les personnages féminins sont minoritaires, mais très présents. Il y a peu de pièces, hein, qui ont pas de femmes du tout, dont Le Gardien. Et la femme est présente et sous-jacente, pas seulement par l'évocation de la mère plusieurs fois, par rapport à cette femme rencontrée par Aston dans un bar qui demande à voir son corps, qui est un effet comique mais qui est en même temps un moment assez extraordinaire, hein, quelqu'un qui vous met la main sur votre main et qui vous demande de pouvoir regarder votre corps, c'est quand même extraordinaire comme entrer en contact après les vacances. Il y a la mère, il y a la femme, et puis en fait, cette maison, qui pour moi était le personnage féminin de la pièce. J'avais envie d'une espèce d'arche comme ça. On est tellement dans des problématiques de tsunami et de violence et d'arrachement et de bombes et de toutes sortes de choses. Je me suis dit, mais cette chambre, elle raconte des choses de l'intérieur et de l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'on peut avoir une focale sur cette chambre. Et puis il pourrait y avoir un champ beaucoup plus large qui nous montre un petit peu le monde extérieur et ce qui se vit là, un petit peu comme une façade d'HLM le soir à la nuit tombante. Eh bien, on peut avoir un zoom avant sur un appartement comme on peut avoir une vision plus large sur ce qui se passe. Et j'avais cette envie de juxtaposition, c'est pour ça que ce plateau est une sorte de radeau, hein, à la dérive, où on voit les choses très finement à l'intérieur, mais après le point de vue du spectateur s'élargit et renvoie à soi, qui a l'effet cathartique aussi des pièces de Pinter comme de la naissance du théâtre.
Marco, on ne vous a pas entendu. C'est dommage.
Alors, soit vous dites oui à tout,
oui, réagir.
Apporter mon témoignage par rapport au travail que j'ai suivi, que j'ai accompagné. Et ce qui m'a frappé et qui n'a pas été évoqué encore par Marie-Christine, c'est son amour des comédiens, parce que dans son envie de monter le gardien, je crois qu'il y avait aussi cette envie de rencontre avec de grands comédiens, trois grands comédiens, comme vous pouvez le constater ce soir, ou comme vous l'avez peut-être déjà constaté en assistant au spectacle. Et ce qui a été dit sur les personnages justement de Pinter est intéressant par rapport à la difficulté. Alors c'est dommage, ils viennent juste de sortir, deux des comédiens qui étaient là et qui nous ont écoutés au début pour aller se préparer, mais il serait intéressant de leur demander, peut-être à la fin de la présentation, comment on joue Pinter, puisque justement ces personnages ont cette ambivalence, cette ambiguïté, ont ce langage double, puisqu'ils disent une chose, ils en pensent peut-être une autre, et ils ont aussi un comportement, et disons dans les gestes, dans les mouvements et dans le rapport, disons, de violence entre eux qui s'entremêlent et qui finissent par faire sens pour le spectateur. Alors justement, l'élément que je trouve aussi intéressant, c'est que cette histoire dont je parle du gardien, au fond, elle ne peut être racontée que dans une pièce de théâtre. On ne peut pas imaginer un roman avec cette ambiguïté, avec cette complexité et ce jeu continuel, puisque la pièce est composée de telle façon que lorsqu'on arrive à la fin, on ne sait pas si les choses pourraient pas, peut-être, non pas recommencer, mais disons continuer encore dans cette dynamique, puisqu'il n'y a pas une fin véritable, ou du moins cette fin est ouverte. Voilà, mais en tout cas, je souligne cet amour des comédiens et ce travail très fin qui a été mené d'un bout à l'autre de ces semaines de répétition pour faire apparaître aussi toute cette humanité qui transparaît dans chaque situation, alors même que par moments, on pourrait avoir l'impression que la pièce est abstraite.
Alors, moi, j'aimerais rebondir sur les acteurs. Parce que ça, vous savez, c'est quand on vous pose une question, on se pose soi-même la question. Moi, je ne me suis jamais demandé pourquoi Pinter. Mais c'est vrai que j'ai vu Pinter jouer par des tout grands. Parce que, comme par hasard, cette œuvre est aussi double. C'est-à-dire, c'est la première œuvre qu'on donne dans les écoles de théâtre. C'est-à-dire, tous les jeunes ont fait Le Monde plat. Hein, ils ont tous fait, parce que c'est une œuvre à deux personnages avec des renversements. Et donc, tout le monde se fait les dents sur Le Monde plat. Mais tous les grands acteurs font les autres pièces. Donc j'ai eu une enfance avec des piliers, hein, avec Dussolier dans Trahison, avec Sally Fray, avec Michel Bouquet dans Roadhouse, etc. Et évidemment, ça marque, puisque c'est un texte qui est porté par les plus grandes voix de l'histoire. Et pour vous, en tant que spectateur, vous y avez accès. C'est très très facile d'un jour aller à l'INA, d'appuyer sur un bouton et d'essayer de voir des retransmissions, voire même des interviews de ces grands acteurs parlant de Pinter au moment où ces pièces étaient jouées. Donc c'est des pans d'histoire.
Même sur le site internet de l'INA, qui est très bien fait, on peut voir ça.
On peut voir ça, oui.
Vous avez rencontré Pinter ?
Alors, Pinter, j'en ai rencontré deux fois, mais comme ça, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je venais de finir ma maîtrise sur Pinter. Je lui ai tendu à Avignon comme un bouquet de fleurs. Tout en gardant de distance parce que je me sentais petit. Il y a même Banu qui ne m'avait pas pris dans un colloque parce que j'étais un bébé en me disant « mange ta blédine d'abord ». Vous voyez ? Donc il y a des étapes aussi. Et je l'ai retrouvé des années après où le théâtre de Rond-Point m'a demandé d'animer un débat avec lui, où je l'ai croisé dans une rencontre avec Pinter. J'ai rencontré la rencontre à quelqu'un d'autre, avec Pina, c'est du même ordre. La rencontre avec Pinter, c'est terrible. C'est quelqu'un qui vous regarde et je donne par exemple la rencontre avec Mackie pour traduire Story. J'ai traduit Story de Mackie. C'est, on se croise deux minutes dans un escalier, il me dit « So, you're the one who's going to do me ». Donc c'est... C'est dur. Si on ne peut pas répondre à ça, on n'a pas le livre. Et j'ai répondu, if you let me. Et donc, il y a toujours une dualité pour ceux qui parlent anglais. To do, c'est à la fois, ok, c'est un mot passe-partout qui va faire la traduction, mais c'est aussi très sexuel. Avec Pinter, c'est plus. Il a dû me regarder en me disant quelque chose du genre. So you're the expert, genre c'est une claque à la figure, vous voyez, c'est 2 minutes. Et donc on a 2 minutes pour ne pas avoir l'air totalement ridicule face à, comme vous disiez, une icône du monde. Et en même temps, on se sent, non pas ridicule, mais on se sent tout petit, sérieusement. C'est-à-dire que c'est des moments d'histoire où le rapport à l'écriture et le rapport à la marque de cette écriture, on en mesure la distance et la différence. Donc, et ce qui m'a plu dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que votre pièce, vous l'avez montée parce que vous trouvez que c'était très drôle. Et en fait, c'est une des valeurs de cette rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, j'avais vu Pinter en Angleterre d'abord, et c'était très drôle. Et en France, ça ne l'était pas.
C'est que la traduction était mauvaise.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, si vous regardez Le Gardien, c'est glauquissime. C'est une pièce. Moi, j'ai toujours eu un problème avec cette pièce parce qu'il faut vraiment vouloir. Il y a la version BBC, c'est dur, c'est gris, vous êtes resserré dans un espace où ils ont fabriqué un espace. C'est comme pour le tournage de Être un moine dans mes désirs. Vous savez, vous progressivement vous resserrez les panneaux pour donner une impression de claustrophobie. C'est du même ordre. Ils sont à 4 pattes dans une sous-pente à essayer de donner une impression qu'on est piégé, quoi. Par contre, si vous avez réussi, on va voir ce soir, à faire drôle, c'est que tous les deux vous avez réussi à entendre cette œuvre, parce que Pinter, c'est drôle, et c'est drôle parce que c'est extrêmement cynique, parce que ce que vous disiez qui était excellent, c'est au-delà de ce qu'on voit sur scène, il y a tout le reste du monde. C'est vrai, mais il y a un autre effet qui est terrifiant, c'est que c'est aussi un visionnaire. Hein, vous savez, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Julian Beck, qui était un des grands du Living Theatre. Mm-hmm. Il a une tombe à Brooklyn, ou à Queens. Je crois que c'est plutôt à Queens. Sur sa tombe, il y a marqué... poète, visionary, c'est activist, visionary, quelque chose comme ça. Et vous pouvez reprendre, il faudrait retrouver tous les mots exacts de la tombe de Julian Beck et les offrir à Pinter. Parce que ce qui est terrible dans ce qu'il décrit et qui paraissait loin de nous, c'est-à-dire quand on décrit comme Beckett ou lui des mendiants, des homeless, des gens qui sont là en train de s'acharner sur est-ce qu'ils vont avoir une chaussure potable pour faire 3 pas dans la rue sans tomber dans la boue, et dont l'obsession c'est « ah oui, j'ai mon savon ». Quand on est dehors un jour, c'est pas la faim qui est un problème, c'est comment rester propre. C'est ça le problème numéro 1. Ça paraissait, on a parlé de théâtre de l'absurde, parce que personne, aucune personne dans un public de théâtre bien propre va s'identifier à ces gens-là. Par contre, aujourd'hui, on sait que demain, on peut être en train de chercher son lacet qu'on n'a pas. De la même façon que vous disiez, ce qu'il y a chez Pinter, c'est la menace. C'est le fait qu'il a été... Alors, déjà, l'absurdité, c'est absurde en surface, mais c'est tellement proche de la réalité des vies que l'étiquette absurde ne tient pas chez Pinter. Et la menace au coin de la rue, la personne, l'outsider qui rentre chez vous, et qui tout d'un coup détruit l'équilibre, que ce soit l'équilibre de votre couple ou de vos objets ou de votre rapport à votre boisson. Il y a d'autres pièces, il y a No Man's Land, etc. C'est-à-dire votre cabinet à boisson. Il y a la menace, chez Pinter a toujours été en feeling drague le nazisme, même si elle est gommée. Et le nazisme a aujourd'hui... C'est vrai, parce que je vais dire, je ne l'ai jamais dit avant, mais vous mettez une autre étiquette qui s'appelle la globalisation, et vous avez un phénomène quasiment identique où il y a un danger très fort par rapport à la survie humaine et financière d'une grande partie de la population. Qui c'est qui peut frapper à votre porte demain? C'est l'huissier. Et le système totalitaire, il, aujourd'hui, enfin, pour l'Occident, il est économique. Donc, il y a quelque chose qui a... Il y a une accélération de la vérité pour tous du contenu de ces pièces.
Et le fait qu'il soit engagé aussi, outre hein, ces pièces, etc., engagé dans la vie politique, hein, ça a aussi son sens, ça a aussi cette importance-là.
Pour moi, c'était essentiel. Je trouve qu'il y a... Ce qui m'a plu aussi chez Pinter, c'est l'adéquation entre l'homme et l'œuvre. Et pour moi, c'est fondamental. J'ai toujours admiré les partis pris qu'il pouvait avoir, les partis pris très courageux, parce qu'on le lui a reproché souvent, hein, d'oser des opinions contre certaines politiques. Il les a dénoncées en particulier dans son discours du prix Nobel. Et c'est vrai que traiter de criminels de guerre son ministre de l'Intérieur, Tony Blair, de le dire de George Bush, et d'être remercié par ailleurs, félicité par ailleurs par Tony Blair pour le prix Nobel, c'est extraordinaire comme situation. Et bien ça, c'est tout Pinter. Oser dire aussi fort, on lui a reproché, il est des fois trop agressif, trop arrogant et tout, mais c'était un homme intègre, hein, qui avait un credo dans la vie que je ne peux qu'admirer. Donc pour moi, c'est très très fort de le voir aussi à travers les personnages. Et quand on fait une distribution, c'est important aussi de choisir des acteurs aussi puissants, à la hauteur d'un auteur.
Philippe Jean, est-ce que ça intervient à vous au moment de l'introduction? Est-ce que vous pensez à l'homme Pinter, à son engagement?
Pas pendant la traduction. On a simplement l'impression et le sentiment de se trouver devant quelque chose qu'il ne faut pas trahir et qu'il va falloir rester au moins aussi juste et faire le moins de compromis possible, faire comme se comporter comme il se comportait peut-être en écrivant. Mais non, on ne se dit pas avant on va traduire quelqu'un d'engagé ou pas engagé. De toute façon, moi je trouve que l'engagement de Pinter, il est carrément au niveau de la phrase. C'est pas qu'un engagement politique, c'est un engagement qui, moi, en tant qu'écrivain, c'est l'engagement avec un grand E par rapport à la langue. Tout ce qu'on vient d'évoquer là, bien sûr. Mais
lui, à ce niveau-là, il y avait des déceptions justement par rapport à ses traductions. On en parlait tout à l'heure.
Entendu dire, parce que moi je ne l'ai pas rencontré, j'ai juste entendu dire qu'il était à un moment agacé par le fait de ne plus être joué depuis une trentaine d'années en France, parce qu'il trouvait qu'on aurait dû retraduire et qu'éventuellement ce n'était pas forcément les universitaires qui étaient le mieux à même de traduire et de retrouver. Moi, je suis, par rapport à un universitaire ou quelqu'un qui a fait des études d'anglais, je suis lamentable. Simplement, je pense qu'il a cru à un moment et il avait dit à Gallimard qu'il était d'accord parce que de refaire des traductions, parce qu'il pensait que peut-être que c'était un écrivain qui retrouverait ce que lui avait essayé de faire passer. En même temps, moi j'étais. C'est grâce à Luc Bondy, en fait, c'est lui qui m'a engagé là-dedans et je le remercie infiniment parce que je pense que j'aurais pu rester. J'aimais beaucoup, hein. Pinter, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais pas quand on est. Là, c'est vraiment. Il y a une espèce d'intimité à phénoménale. Quoi. Dans la traduction, j'ai trouvé que c'était.
Alors pourquoi avoir accepté?
Comment refuser? Non, déjà, Luc Bondy qui vous fait cette proposition, et en plus, il ne propose pas n'importe quoi. Pinter, oui, bien sûr. Bah, oui, il y a une espèce d'évidence qui se crée à un moment, et en même temps. Moi, je m'intéresse beaucoup à la langue, et en même temps, c'est la langue parlée, donc ça m'intéresse. Et tous les choix dont on parlait tout à l'heure, les petites choses, comment il faut arranger le vouvoiement,
mais
le
gens
tutoiement.
Mais les gens n'étaient pas là tout à l'heure quand vous en avez parlé.
Non, ben, y a un
on
truc
va rejouer
tout bête.
La scène. Rejouer la scène. C'était très bien.
Ah non, mais c'est ce truc tout bête que tout le monde connaît. C'est-à-dire que l'anglais, il n'y a pas 36 manières de traduire « tu » et « vous », et c'est à chaque fois un choix. Et il se trouve qu'à l'intérieur de la pièce... Moi, je pense que les personnages ne sont pas, une fois pour toutes, du début à la fin, sur le même registre. Et selon les péripéties ou selon les basculements, on doit pouvoir passer. Mais après, c'est de l'ordre. Par exemple, avec Luc Bondy, la fin du retour, la femme, qui est la seule femme de la pièce, reste donc dans cette famille de cinglés et le patriarche, enfin celui qui est le Max, qui est la personne, le père de ses enfants un peu bizarre et compliqué, se demande si cette femme va lui accorder ce qu'elle a a priori proposé, à savoir rester avec ces gens-là et leur servir à la fois de putain et de... voilà. Et donc, il dit à son fils à un moment, parce qu'il voit qu'il y en a un des fils qui est couché sur elle et elle lui caresse la tête, et il dit... Et tu crois qu'elle a compris quand même que moi aussi je compte et que moi aussi et il l'a traité de tous les noms, hein, de salope, de tout, enfin pas tout le temps, mais la première fois il l'a vu, il dit vire-moi cette traînée de chez moi, enfin c'est très très dur. Et donc il y a des registres à trouver, et à la fin il se tourne vers elle, et il y avait ce problème de savoir est-ce qu'il faut traduire kiss me par embrasse-moi ou embrassez-moi. Moi, j'ai décidé, parce que c'était moi le traducteur qui était après publié, que c'était embrassez-moi. Mais Luc Bondy disait non, c'est embrasse-moi. Voilà, c'est des choix, et là, donc, vous êtes plongé dans.
Et on vient de tomber d'accord sur l'idée que dans le.
J'ai été adoubé par Brigitte. Je vais pouvoir dire à Luc que tu t'es trompé.
Que je relise l'ensemble pour voir. Mais dans ce que je ressens, c'est ce qui est intéressant dans le vous, c'est qu'il y a tout le. L'éventail que vous mentionnez avant, c'est-à-dire il y a à la fois le t'es une sale pute mais je te respecte, et on peut pas avoir du pinter déjà en parlant correctement. Il faut pouvoir avoir tout ce parcours.
Mais en même temps, quand un personnage qui arrive au bout de cette situation terrible de tension entre lui, ses enfants et cette femme, on arrive à revenir à la fin au vouvoiement, moi je trouve que c'est d'une émotion intense, parce que ça veut dire il accepte d'un seul coup, il rend les armes, et c'est rien, c'est embrasse-moi, je sais même pas, parce que comme j'ai pas vu la pièce, j'étais pas là quand il y a eu la première, je sais même pas si c'est audible. C'est Bruno Gantz qui dit ça. Bruno Gantz a un accent, il est peut-être tourné, il est couché sur elle, est-ce qu'on va entendre embrasse-moi ou embrassez-moi, je sais pas du tout. Et pour moi, ça a été un long moment où je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Et d'autant que Luc allait vers autre chose. Mais c'est ça la grande joie et le grand plaisir. C'est se mettre. Et moi, j'ai senti ça vraiment. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas traducteur. Mais un moment de se mettre au service d'un auteur. C'est-à-dire que souvent, on a eu ce problème. Je ne sais pas, je ne veux même pas parler de l'ancien traducteur de Pinter. Mais souvent, il y a cette espèce de problème avec les traducteurs qui, d'un seul coup, se prennent pour l'auteur. C'est-à-dire qu'ils en rajoutent ou ils tirent un peu la couverture à eux. Moi, j'ai pas du tout ce problème. Au contraire, moi, c'est je suis au service de Pinter et j'ai pas besoin, à la limite, qu'il n'y ait pas mon nom sur la traduction. C'est pas important. C'est Pinter qui est là. Moi, je suis à son service. Et ça, souvent, avec la traduction, c'est pas si évident.
Et moi, je pense qu'il y a eu une grande polémique sur, comme vous dites, l'ancien traducteur de Pinter. Mais moi, je l'ai connu. Hein, je l'avais interviewé. J'étais aussi très très jeune à l'époque, donc. Et j'avais une forme de respect, et je garde une forme de respect pour cet homme, alors que j'ai lu beaucoup de choses détestables sur la façon dont il a traduit. Il a quand même traduit tout Pinter, et il a traduit tous les scénarios de Pinter, tous les films, et à une époque où ils étaient très proches. Et je pense que le problème n'est pas ce qu'il a traduit, le problème c'est une époque qui a radicalement changé. Et une traduction, c'est pas est-ce que le mot A va être traduit par un mot qui est équivalent à A. C'est une ambiance générale. C'est-à-dire la qualité de la traduction se décale. C'est-à-dire, c'est pas forcément à l'échelle du mot. Hein. Et ce qu'il faisait de bien, disons, c'est qu'il pouvait aller dans des choses très, très grasses qui devenaient très classe, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que son vocabulaire était extrêmement sophistiqué, archaïque. Et ça crée l'équivalent de ce qu'on trouve chez Pinter, qui est, de temps en temps, il y a des mots français, comme ça, qui font au contraire chic, un penchant, il y a le mot, des choses comme ça. Et il y avait un décalage qui donnait un même effet, mais évidemment, ce n'est pas de la traduction, ça n'a plus rien à voir, on ne peut pas dire que c'est bien traduit ou pas. C'est comme quand on regarde Yeats traduit par Bonnefoy, c'est pas n'importe qui d'autre va traduire Yeats, et il n'aura pas la même chose, parce que Bonnefoy décale les effets qui sont un ressourcement dans des termes latins ou des termes plus riches sur le mot de la ligne 3, alors qu'il est sur le mot de la ligne 2. Il se permet ça parce qu'il est poète. Alors, ce qui est formidable avec Philippe Djian, c'est que lui aussi est auteur. Donc, et je pense qu'on vous disait que le choix de Gallimard de donner Pinter à un auteur plutôt qu'à un anniversaire, c'est intéressant, parce que c'est intelligent. Parce que faut pas juger une traduction ou comparer une traduction des uns et des autres. C'est un effet.
Mmh. Non, mais moi, j'étais souvent... mais parce que quand vous êtes en train de traduire, des fois, vous êtes vraiment sur la maille. Vous voyez, c'est très, très, très précis. Et moi, j'étais souvent en colère contre Kahn parce que souvent, il donnait des indications, surtout dans les didascalies. Hein. Il y en avait deux fois de trop qui rajoutaient. Hein. J'imagine mal que Pinter lui disait « Attends, les Français, ils sont plus cons que les autres. Il faut leur expliquer plus. » Des fois, il y avait des indications scéniques et des indications d'émotions des personnages qui étaient indiquées par Kahn et que Pinter ne l'indiquait pas. Donc des fois, alors ça paraît pas énorme, mais moi, je me souviens, souvent, j'étais vraiment énervé contre Kahn.
Mais par exemple ?
Bah, par exemple, j'ai pas d'exemple. Sinon que, par exemple, il coupait un dialogue pour dire le type tourne la tête ou le type soupire et c'est
et
à vous.
Original, il n'y a pas.
Non. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Et c'est... Et de la même manière, il y a eu un autre traducteur, par exemple, je l'ai vu dans une autre pièce que j'ai traduite qui s'appelle The Room. Il y a simplement l'indication au départ des personnages, on donne l'âge, c'est un couple, on voit un couple. Alors donc quand vous lisez, vous ne voyez pas des personnages sur scène. Donc à la lecture, c'est un couple. Et le Pinter dit, par exemple, la femme a 60 ans et le type a la quarantaine. Et il y a un espèce de... La situation, quand vous le lisez, donc pas quand vous le voyez, mais quand vous le lisez, vous avez deux personnages, une femme qui est tout le temps en train de parler en tournant autour de son mari à qui elle fait à manger, et lui qui est dans son journal et qui répond même pas. Et ça peut paraître, on dit, c'est bizarre. Si c'est des gens de 60 ans tous les deux, c'est un peu bizarre ou différent que si d'un seul coup on vous explique qu'il y en a un que la femme a 60 ans et que le type en a 40. C'est plus pareil, ça change tout, quoi. Et donc des fois je trouve soit cette espèce de légèreté des traducteurs, soit cette espèce d'envie de dire attendez, je vais vous expliquer parce que moi qui suis le traducteur, je comprends mieux que vous et je vais vous dire quelle est la situation du personnage quand il dit ça. Je suis pas d'accord. On a tellement fait en plus en France au niveau des traductions quand on a traduit Dostoïevski et tout ça pour ça part d'un bon sentiment, j'imagine, évidemment on essaie de vous dire attendez, vous avez vu Dostoïevski, il écrit bien. Mais non, Dostoïevski, il écrivait pas bien ni pas bien, il écrivait comme lui, comme Dostoïevski. Donc aujourd'hui, au niveau des traductions, on s'aperçoit que voilà, et les traductions, c'est tellement important que, par exemple, tout petit détail, je ne vais pas vous embêter longtemps parce que la phrase va commencer, mais chez Gallimard, il y a eu ce problème il n'y a pas longtemps avec Cormac McCarthy, Gallimard traduit le premier bouquin et c'est un flop total. L'Olivier reprend le truc et le traduit et c'est un succès phénoménal. Donc les traductions, je suis, chaque fois que j'ai abordé ça, j'y suis allé avec d'infinies précautions. Soit on fait ça, soit on ne traduit pas, on fait autre chose. Mm-hmm. C'est tellement énorme. Je veux dire, là, la trahison, pour moi, ça a un sens.
Et c'est aussi
traduire,
signe de
traduire,
son... C'est un signe de sa force qu'il soit retraduit aussi. Shakespeare est régulièrement retraduit. Donc,
à quel prix, avec quel débat, quelle polémique et tout. Mais tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'intéressant par rapport à Harold Pinter, c'est-à-dire qu'il se dérobe sans cesse. Mais finalement, comment on le saisit ? Comment vous le saisissez ?
Il se dérobe, c'est ça ?
Oui, ouais. Il se dérobe sans cesse, qu'il est insaisissable, que quelque part on n'arrive pas à le saisir. Comment vous le saisissez alors ? Où vous le prenez ?
Je saisis ce que je peux saisir avec toutes mes capacités. J'essaie de, oui, tout en me disant oui. Mais je crois que si on s'entoure de précautions maximales, on peut éviter une trahison trop importante. Mais on ne sait jamais. Hein,
c'est toujours là, ça, la notion de trahison, le risque.
Ah oui, la trahison, ah oui. Mm-hmm. Ah non, mais c'est en même temps. J'ai pas de mérite. Parce que j'ai un travail à côté, c'est pas comme si je faisais que ça. Et ces traducteurs qui sont dans la peau, parce que Eric Kahn, je sais pas trop s'il traduisait d'autres choses, il s'est carrément consacré à l'œuvre de Pinter. Je sais pas s'il a traduit beaucoup d'autres choses.
Je pense qu'il a fait d'autres films.
Mais non, des films, enfin,
oui, d'autres films. Non, je veux dire d'autres traductions de ses
films. Ah oui, d'accord. Mais il y a évidemment, à un moment, je pense qu'il y a une espèce d'identification. Si tout ce que vous faites dans, de vos journées, de votre vie, c'est de vous mettre dans la peau de quelqu'un dont vous traduisez la parole. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Je veux dire, quand j'ai fini, Non, je n'ai pas ce problème. Donc, je crois que c'est aussi une... c'est pas une force, c'est une chance.
Cette notion de trahison pour la... Enfin, poser la question aussi à un metteur en scène ou au dramaturge, il y a toujours un risque, il y a toujours un risque de glissement. Comment vous répondez à ça?
Par rapport à la traduction ou
Par rapport à ce que vous dites et la manière dont vous percevez ce que vous dites à Peter.
Ben ça, c'est le travail magnifique du plateau.
Mais c'est le même travail qu'un traducteur, presque quelque part, parce que c'est une manière de traduire ce que vous faites.
Exactement ça. C'est-à-dire qu'on part avec une envie d'un texte, un auteur, on rêve d'une distribution. Si on a la chance de l'avoir, comme j'ai eu la chance d'avoir cette distribution-là, eh ben on entre en répétition et à partir de là, tout se fait. Il y a tout le travail en amont qu'on a pu faire avec Marco sur la pièce elle-même, les pistes qu'on voyait, ce que j'avais envie, ce qu'il voyait lui, tous les possibles. Et puis après, il y a un travail vraiment très concret. On a tous fait de chair, de sensibilité, on a tous des vécus différents. Et c'est là, c'est cette... coïncidence-là qui est magnifique. Qu'est-ce qui se passe sur un plateau avec un Jacques Probst, un Mathieu Delmonté, un Frédéric Langenberg à un moment précis de notre vie? Remonter quelques années après, ce serait forcément différent. Mais c'est ça qui est passionnant. Et j'en veux pour preuve. Un des personnages, en tout cas, c'est celui d'Aston. On avait beaucoup pensé pour chacun des trois personnages avec Marco. Et puis, au fur et à mesure des répétitions, il me semblait que les choses évoluaient différemment pour ce personnage. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, ce personnage dit oui au début, il dit non à la fin, et il y a un parcours que je n'ai pas repéré au début. Et finalement, c'est un des personnages qui, peut-être, qui émerge de ce marasme dans lequel se trouvent ces trois paumés de la société. Et voilà, du coup, cette lecture s'est faite entre les propositions qu'on peut faire en arrivant en répétition, ce que proposent les comédiens avec toute leur sensibilité, tout leur vécu, tout leur professionnalisme, et puis ce direct-là qu'on n'imaginait pas avant. On peut théoriser comme on veut, on parlait de propositions entre universitaires, traducteurs, artistes et tout, mais c'est finalement dans l'instant que les choses se font. On travaille en amont, mais c'est là. Et puis après, ça donne ce que ça donne, qui est à retravailler, à continuer de travailler et tout. Mais c'est ça. Alors peut-être que dans 3 ans, je dirais, ben là, j'aurais pas dû faire ça, ou j'ai pas vu ça et je ferai différemment. Mais voilà, on essaie d'être au plus proche. Là, on n'a pas changé, on n'a pas enlevé un mot, on n'a pas fait de coupure du tout, on a eu un petit aménagement par rapport à...
Et puis il y a les silences.
Voilà. Alors les pauses, on les a quasiment toutes traitées, même si Jacques me dit toujours que je les fais trop courtes et pas assez nombreuses à son goût, peut-être j'en ai sauté 2 sur l'ensemble, mais il y a quand même une chose que je réévoquais avec Brigitte Gauthier tout à l'heure, c'est que dans le Mettre en scène Pinter que vous avez écrit à partir du Viva Pinter que vous avez organisé en 2007 à Lyon, moi il y a un témoignage de David Jones qui m'a beaucoup plu, c'est quand il a eu à travailler avec lui comme acteur. Où effectivement Pinter en avait ras-le-bol des pauses et voulait les sauter toutes et il fonçait, il n'en faisait plus aucune. Alors toute la délicatesse du metteur en scène qui devait, avec la pointure d'un auteur, d'un acteur comme Pinter, arriver à lui dire mais quand même il faudrait voir respecter un peu l'auteur puisque lui se voulait absolument traiter comme acteur. Et finalement il a fallu ce troisième personnage qui était le jeune auteur de la pièce auquel il faisait référence tous les deux pour arriver à finir par dire mais est-ce que tu ne penses pas que ce jeune auteur, s'il a mis 3 pauses là, c'est qu'elles ont leur raison d'être. Et finalement Pinter disait je vais y réfléchir et le lendemain il recalait 2 pauses. Donc ça c'était magnifique.
Vous vouliez ajouter quelque chose avant que j'ai...
Non mais je ne sais plus.
Moi j'ai assisté un petit peu au travail de Bondy sur le retour là. Il y a eu 2 mois de travail vraiment intense. Et j'ai vu qu'il y avait 1000 pièces dedans. Parce que quand Luc disait non, tu regardes pas comme ça, tu te mets un petit peu comme ça. Et là, tu attends trop longtemps, recommence, va plus vite. C'est incroyable. Quoi. Et là, il y a un choix de traduction. C'est un choix de traduction aussi. Luc Bondy a traduit la pièce et sans changer un mot. Sauf embrassez-moi et embrasse-moi. Mais non, mais sinon, il y a 1000 pièces dans. il y a un travail incroyable.
Ah oui. C'est pour ça qu'on parle de lecture d'une pièce, forcément. C'est un point de vue, c'est un filtre. À un moment donné, qu'est-ce qui est dit de cette pièce-là à travers un auteur, une œuvre, par une équipe et le regard de l'auteur en scène.
C'est certainement d'autant plus dur et d'autant plus délicat chez Pinter, ce fait que tous les personnages sont à double face. C'est d'autant plus compliqué, parce qu'il faut à chaque fois arriver à rendre ça. J'en parlais avec Emmanuel Riba qui avait monté le retour avec Claude Régis, qui disait que c'était très très compliqué pour elle d'être tout le temps, être à double face tout le temps. C'était très très, c'est en même temps très subtil, quoi.
Il y a ce qui se dit concrètement dans la répétition, il y a tout ce qui ne se dit pas et qui relève
Pinter,
la cuisine.
Dieu seul, si ça ne se dit pas, c'est important.
Voilà. Et puis, ce qui fait que chacun nourrit aussi de sa personnalité qui n'a pas à dire. Et il enlèverait un peu du mystère du personnage. Moi, je suis arrivée avec des propositions sur certains personnages, puis au bout d'un moment, chacun se les approprie. Et puis, il faut surtout pas tout dire, de loin pas. Et après, c'est cette alchimie-là. Mais c'est ce qui fait qu'on aime le théâtre en particulier.
Brigitte Gauthier a retrouvé ce qu'elle voulait dire.
Non, en fait, je rebondis sur autre chose. Enfin, la première chose que je voulais dire, c'est que vous parlez des acteurs, et c'est vraiment ça qui va être très important à voir ce soir. C'est-à-dire qu'il y a des êtres de chair qui vont rentrer dans quelque chose qui, pour vous et moi, c'est du texte sur le papier. Et ce n'est pas du tout évident, dans la mesure où on est à 10 000 km lumière d'une série télé. Ce ne sont pas des personnages qui ont une étiquette, le facteur, le médecin, etc. Pinter leur a tout enlevé. C'est-à-dire, vous vous projetez dans quelque chose où la seule façon pour que ça fonctionne sur scène, c'est que vos trois acteurs, ou dans d'autres pièces, deux ou quatre, arrivent à fabriquer ce entre-deux, entre eux, pour que le glu tienne. C'est-à-dire que chaque expérience, chaque montage de pièce de Pinter, c'est un... Il faut qu'il y ait une alchimie entre les acteurs. C'est-à-dire, si vous les castez mal, s'il y en a un qui est mal casté, ça tombe. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est vous disiez que la mise en scène, c'est aussi une traduction. Et en fait, le travail de critique, c'est aussi une traduction, parce que ça, c'est une version de ce que aider à entendre. Ça ne dit jamais, ça ne donne pas une solution, hein, mais ça aide à accompagner. Et une chose que j'ai toujours aimé faire, c'est inciter les gens, au-delà de la pièce qu'ils vont aller voir, et puis la future pièce qu'ils iront voir, puisque là, par exemple, le retour est joué à Paris à l'Odéon, jusqu'à janvier, c'est ça ?
Oui, c'est en même temps.
Voilà. Il y a aussi le... Pinter, ça se lit. Hein. Il y a tout Pinter chez Gallimard. Mm-hmm. Et il y a les poèmes chez Buchet et Chastel. Mm-hmm. Et vous pouvez, de la même façon qu'on dit Musset, vous pouvez le lire dans un fauteuil. Pinter, vous pouvez le lire dans un canapé. Hein, il y a quelque chose qui fait que lire du Pinter au ralenti, je veux dire en tête à tête, vous avec le texte, c'est pas mal non plus, parce que chaque personne du public vit sa pièce en parallèle. Ça, vous ne vivez pas forcément dans n'importe quel, avec n'importe quel film, vous n'allez pas vous identifier partout. Là, vous avez j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. C'était, vous savez, quand vous ouvrez la télé, vous zappez sur n'importe quoi, des fois il y avait une émission sur les souris ou les rats, une émission sur la dératisation. Enfin, le rapport avec Pinter, il n'est pas évident, mais alors ils ont fabriqué un outil extraordinaire, un outil magique pour empêcher les rats de rentrer dans vos canalisations chez vous à Berlin, qui est un outil conique, une espèce de tube comme ça, parce que sinon les rats, que ce soit dans l'eau ou dans les tuyaux ou le long des murs, du moment qu'il y a un mur vertical, ils grimpent, ils passent, ils rentrent chez vous, ils ressortent, je passe les détails. Donc dans un système conique, paf, ça ne tombe pas. Pinter, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous accrocher à rien. Hein. C'est-à-dire qu'il vous refuse l'identification partout, et pourtant, à la fin du spectacle, vous êtes regardé dans la glace. Et c'est pas facile.
C'est une belle conclusion.
Tout à fait,
oui.
Ouais.
Une dame. Oui. Une question pour vous, et là, c'est à madame la mise en scène. Le décor musical, je sais pas, le décor, la musique, dans la pièce que j'ai vue, c'est une vraie alchimie. Enfin, personnellement, elle en moi, qui a. Ça fait une alchimie. Alors, je me demandais comment ça se passe pour
créer une musique pour une pièce. Qui l'a créée? Comment vous travaillez avec les gens qui font la musique? Enfin, le bruitage et la musique.
Alors, j'ai fait appel à Michel Vinch, qui est un musicien, un compositeur avec lequel je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je fais appel à lui parce que c'est un créateur et que j'ai chaque fois envie de faire des créations, même par rapport à des pièces qui ont déjà été jouées. Et puis je souhaitais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure de ce personnage féminin de la chambre, pour moi la musique est le prolongement un petit peu de cet élément féminin. C'est-à-dire qu'il y a le lieu, il y a l'enveloppe, hein, le cadre un petit peu de ce qui se passe de l'intime de ces trois personnages, il y a la coulisse de ce monde-là, et puis il y a, on parlait beaucoup de sexualité par rapport à Pinter, pour moi c'est cet élément-là, c'est l'élément sexué qui traverse, qui n'a pas d'autre physique qu'audible, mais en même temps qui nous permet de projeter, hein, des images. Alors c'est d'une part les éléments qui jouent, Michel Vinch a tout de suite en lisant la pièce entendu les sons, hein, elle est poreuse, elle a des courants d'air, ça c'est le texte qui le dit, c'est l'église Aston qui le disent. Et puis après, c'était le fait d'avoir envie de le travailler comme un personnage avec les autres personnages. Donc les acteurs ont été partants pour travailler avec le musicien en création. C'est-à-dire qu'on allait chez lui dans son studio, on travaillait les scènes préalablement, les acteurs étaient dans un niveau de la maison par rapport au studio, ils étaient en lien. Le musicien avec les comédiens donnaient les soliloques, j'ai pris par bloc les soliloques, et puis à partir de là, Michel Vinch improvisait. Donc il avait non seulement le piano, mais il avait tous les autres instruments, et il n'y a aucun son qui est scanné, ce que j'appelle, synthétisé, enfin bref, il est bois. Quel est le son? Sandro, quel est le son pour prendre un vrai son qu'on... Sampler, voilà, c'est sampler que je voulais dire. Il voulait surtout pas de son réel, sampler comme la goutte, etc. Donc il a tout créé à partir de son piano, instrument, orchestre. Et puis on l'a refait plusieurs fois. On est revenu 2-3 fois au fur et à mesure que les répétitions évoluaient pour qu'on arrive à trouver la meilleure des versions. Donc après, il y avait tout un travail de montage avec les comédiens et moi et le musicien pour arriver à trouver entre les différentes versions ce qui nous plaisait le plus et qui était le plus en adéquation sur lequel les comédiens allaient pouvoir jouer. Et naturellement qu'après c'était précis au mot près, à la seconde près, au silence près, mais vraiment la musique devinait un personnage.
Oui, le quatrième personnage.
C'est exactement ça. Excellent. On a le quatrième mur au théâtre, mais là il y a un quatrième personnage.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que c'est une première, la musique pour cette pièce avec...
Tout à fait.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est osé.
Comment?
C'est osé.
Dans quel sens?
Dans le sens que ça crée un personnage supplémentaire.
Oui, surtout que Jacques Probst, qui a joué le rôle d'Aston il y a 25 ans dans la mise en scène de Philippe Manta,
ouais,
a beaucoup résisté.
Parce que
je ne crois pas le trahir en le disant, si jamais il m'entend en coulisses. Il a beaucoup résisté parce que forcément que la pièce n'a aucune didascalie liée à la musique. Je ne pense pas qu'Eric Kahn ait rajouté quelque chose lié à la musique. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un élément évident. Et pour lui, pas du tout. Il a joué cette pièce dans le silence total et il avait beaucoup de problèmes par rapport à ça. Problèmes. Ben voilà, c'était mon point de vue, donc je l'ai défendu et je l'ai maintenu. Mais c'est vrai que, par exemple, le grand monologue d'Aston, hein, qui a quand même 3 pages et demie à la fin de l'acte 2, moi je l'ai souhaité avec une alchimie, quelque chose d'organique, le mot avait été prononcé tout à l'heure. Je voulais que la musique soit organiquement travaillée avec le jeu de l'acteur. Donc, voilà.
C'est pas un emballage.
Surtout pas, surtout pas. Oui, donc c'est une création par rapport à cette pièce.
Merci.
Voilà, comme l'heure de la représentation se rapproche, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui sont venues ce soir, remercier les intervenants, c'est-à-dire Philippe Jean qui vient de sortir haut chez Gallimard. Je l'ai lu, franchement. Bon, ça le fait chier, mais franchement, je vous le conseille. Voilà.
Donc, servez-vous.
Brigitte Gauthier, Tania Chitil, Marco Sabatini. Et toi, j'ai oublié ton nom. Non, je rigole. Bien sûr que non. Marie-Christine Épinel, qui est la personne qui met en scène le spectacle que vous allez peut-être voir ce soir. Et je voudrais finir quand même, puisqu'on parlait de sexe, sur et de rongeur sur sur une phrase d'Harold Pinter, puisqu'on parlait de lui. Alors, à un critique, il lui demandait de quoi parlaient ces pièces. Il avait répondu un jour: de la fouine cachée dans le placard à liqueur. Voilà, réfléchissez à ça en regardant la pièce ce soir.
D'autres traditions disent la belette.
Thank you.